et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort.
Il va louper le début. Mais c'est pas une heure pour prendre sa douche.
Et c'est sur l'autre radio.
Couper, c'est choisir, c'est dire au revoir à ce qui dépasse, à ce qui alourdit. C'est une métamorphose miniature, une petite révolution qui commence dans le miroir. Parfois, c'est un élan de liberté, d'autres fois, c'est un sursaut d'audace, un défi lancé à soi-même. Allez, cette fois, je change. Mais alors, si je veux juste raccourcir un peu, pas trop, garder un peu de ce que j'étais hier tout en avançant vers ce que je serai demain, est-ce que ça fait de moi un indécis, un équilibriste capillaire, un aventurier prudent et surtout qui décide du prix du voyage ? Aujourd'hui, on parle de cheveux, mais pas seulement, on parle aussi de justice, d'égalité, de cette drôle d'habitude qu'on a de poser des étiquettes partout, y compris sur nos têtes. Et de cette coiffeuse qui a décidé que c'en était fini des petites injustices, des grands standards et des cases trop étroites. Alexia Legrand a ouvert son salon à Laval, un salon où on ne vous classe pas en homme ou femme, mais en cheveux courts, cheveux mi-longs, cheveux longs, et c'est tout. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on en a à faire du genre quand tout ce qu'on veut, c'est sortir de là en se trouvant beau ou belle. Bonjour Alexia, et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour.
Alors, votre salon, c'est Azoa Hair Stylist. Et tu t'es pas arrêtée là, Alexia. Tu as aussi décidé de t'occuper des cheveux qu'on oublie, qu'on néglige dans les manuels de coiffure, les bouclés, les crépus, les ondulés indomptables qui en ont marre d'être mal compris. Bref, aujourd'hui, on parle de cheveux, mais on parle surtout de liberté. Et ça, ça décoiffe. Bienvenue à vous, amis auditeurs. Vous l'avez compris, c'est l'agité du local qui commence en beauté et en grande forme puisque tu es là. Maxime, toi aussi à mes côtés aujourd'hui. Comment tu vas ?
Bonjour à tous. Ça va super. Et toi, Margot ?
Bah, ça va très, très bien. Et puis, on te retrouve tout à l'heure justement pour la revue de presse du Haut-Anjou avant de passer à la seconde partie de l'émission qui nous permet de rencontrer le collectif UND, comme Unissons nos différences, qui va nous parler des semaines d'éducation contre les discriminations. Voilà, et on termine et bien évidemment sportivement avec toi Mathieu et ton journal des sports. Comment tu vas ?
Ça va bien et toi ?
Ça va très très bien. Et donc, c'est votre émission quotidienne qui commence, l'agité du local. Et donc aujourd'hui, pour commencer la semaine, on est en très bonne compagnie, je vous le disais, puisque nous sommes avec Alexia Legrand du salon Azoa, hair stylist à Laval. Alexia, tu es placée rue du Val de Mayenne.
C'est ça.
Et donc, avant d'ouvrir ton propre salon, tu as exercé à Londres dans un salon spécialisé dans les cheveux bouclés.
Exactement, en plein centre de Londres en plus, donc bonne chance que j'avais.
comment tu es partie là-bas ? Comment s'est fait cette t'as pris cette décision là ?
Alors en fait, quand on est au CFA du coup à Laval, on a l'opportunité de faire Erasmus en extrascolaire, et donc moi je savais que je voulais partir vivre à Londres de base toute ma vie, et on m'a proposé Erasmus, et donc j'ai fait ça d'abord pendant 6 mois, et en fait au bout des 6 mois, ma patronne m'a embauchée, et voilà quoi.
Et alors, tu pensais pas, en revenant à Laval, ouvrir ton propre salon ?
Exactement.
Et en même temps, par rapport à tes expériences, est-ce que tu as vu de la coiffure ? Toi, tu avais envie de faire les choses différemment ?
J'avais fortement envie de faire les choses différemment, exactement, mais je m'en sentais pas forcément capable. C'est beaucoup de pression. Et je pensais changer les choses, mais pas avec un salon de coiffure. Je pensais aller dans des grandes villes, faire des choses avec d'autres grandes personnes qui ont déjà eu cette vision-là. Et non, je suis rentrée à Laval parce que mon amoureux est à Laval. Et ça a fait mon effet papillon que je me suis dit, quitte à rester à Laval, autant créer le lieu où moi je me sentirais bien. Et voilà.
Alors ce qui m'a intéressé, ce que j'ai pu dire en introduction de cette émission, c'est que ta tarification est non genrée, ce qui donne une autre perspective, un autre angle par rapport à ce qui est pratiqué un peu partout, en tout cas en Mayenne, je pense.
Exactement. En Mayenne, oui, il n'y en a pas du tout. Enfin, en tout cas, s'il y en a, ils ne sont pas déclarés sur Google, quoi, parce que je ne les ai pas trouvés. Mais oui, c'est ça, je trouvais ça injuste qu'une femme qui fasse exactement la même coupe de cheveux qu'un homme se retrouve à payer plus cher. Et puis aussi pour tous mes amis non-binaires, transgenres, etc., où ça en devient malaisant d'aller chez le coiffeur et de se présenter sous un genre qu'ils ne sont pas. Et donc voilà, je trouvais ça très important, parce qu'en soi, vous êtes juste des cheveux, genre peu importe ce qui se passe en dessous de votre front, je m'en fous, moi. Donc voilà.
Et justement, tu évoques le mal-être de certaines personnes non-binaires ou même transgenres chez le coiffeur. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir en parler, visibiliser ça. Est-ce que toi, tu as eu des témoignages, des situations qui t'ont particulièrement marquées, ou en fait, on ne se pose pas toujours la question de ce que peut vivre l'autre, et pourtant, c'est toujours important d'avoir un regard et de pouvoir s'adapter, en fait, à chacun.
C'était des petits trucs du genre Des fois, je sentais qu'il fallait que je demande le genre de la personne que j'avais en face de moi et j'avais des moqueries de certaines collègues. Ou alors des clients où ils se présentent masculins envers moi et j'ai des anciens patrons, patronnes, etc. qui me disaient « bah ouais, mais là, c'est tarification féminine ». Et je suis pas d'accord. Et donc, j'ai commencé à un peu faire bouger les choses dans les salons où j'étais. Mais c'était pas officiel, quoi. C'était vraiment juste pour cette cliente. C'est ce qu'elle me disait. Hein. Pour cette cliente, ça passe cette fois, alors qu'elle a littéralement fait une coupe homme pour eux. Et je trouvais pas ça juste. Enfin, des trucs, des fois, c'est même pas en question de genre. La personne, elle peut se sentir complètement féminine. Mais si elle fait une coupe tondeuse, pourquoi elle devrait couper, payer une coupe, enfin bref. C'est tout un truc qui a fait que j'ai commencé à sentir de l'injustice. Cette fameuse taxe rose, où parce qu'on est des femmes, on doit payer plus cher. Et c'est pas juste.
Oui, puisque j'imagine peut-être que les messieurs qui nous écoutent n'ont pas forcément conscience en fait, de ce que payent les femmes. C'est vrai qu'une femme qui ferait une coupe courte, finalement, elle a quand même une grande marge de différence entre les deux.
C'est ça. Et puis même, on s'en est rendu compte encore plus quand il y a eu la mode des cheveux longs chez les hommes. Ils payaient quand même le tarif homme, alors qu'ils faisaient la même chose. Enfin, vraiment, c'est... J'ai trouvé ça très insensé dernièrement. Et du coup, je me suis dit, quitte à ouvrir mon salon, autant mettre en avant ma spécialité pour les cheveux bouclés et aussi retirer toute l'injustice qu'il y a autour des prix.
Ton engagement féministe, justement, se traduit donc dans ta manière d'accueillir, de traiter chaque client avec équité. Est-ce qu'au-delà de la tarification, effectivement, de l'attention que tu portes aux pronoms utilisés pour chaque client, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles aussi tu tiens à être vigilante? Ouais. D'autres choses qu'on ne voit pas forcément en salon, mais qui pour toi comptent?
Absolument tout, en fait. À partir du moment où vous êtes humain, peu importe votre petit truc en plus, votre spécialité, j'en sais rien, votre ethnie, tout. Vous êtes humain, vous pouvez venir chez moi. Mmh. Donc ça passe par les cheveux. Donc le fait que si vous avez les cheveux ondulés à crépus, vous pouvez venir chez moi. Si vous avez les cheveux asiatiques, donc très raides, vous pouvez venir chez moi. Si vous êtes autiste et que vous avez besoin d'une attention particulière, vous me prévenez, vous pouvez venir chez moi. Si vous êtes PMR, vous pouvez venir chez moi parce que oui, si vous avez vu des photos, des vidéos, il y a effectivement une estrade, mais j'ai un bac amovible qu'on peut mettre en bas de l'estrade exprès pour les PMR. En fait, tout. Vous êtes humain. Peu importe ce qui se passe dans la tête ou dans la culotte, vous pouvez venir chez moi.
Est-ce que tu penses justement que ce type d'attention, de tarification, ça pourrait inspirer d'autres salons à revoir leurs pratiques? Puisque j'ai l'impression que c'est pas des débats pour l'instant encore entrés dans...
Bah, en tout cas, pas dans l'ouest de la France. C'est pas... Ou alors dans des grandes villes. Je sais que Nantes, Angers, ça commence, Rennes un petit peu, mais c'est tout, quoi. Et pour moi, je trouve ça beaucoup trop important. Il faut se réveiller. On est en 2025, les gars. Il faut vraiment se réveiller. Et je trouve ça trop dommage encore. Ou même les salons de coiffure qui sont que féminins. C'est pas juste. Ça veut dire que les que hommes qui se considèrent vraiment hommes, ils font comment s'ils veulent un balayage ou des trucs vraiment qui sont soi-disant que pour les femmes. Je trouve ça bête, à un moment, c'est des cheveux, c'est bon.
Est-ce qu'à Londres, t'as vu des choses différentes, justement, aussi, de ce qui peut se faire plus couramment en France?
Oui. Déjà, pour plein de choses que j'ai mis en place dans mon salon, par exemple, les diagnostics avant la prestation du rendez-vous. Donc, par exemple, quand des clientes se posent trop de questions ou quoi que ce soit, vous prenez rendez-vous pour un diagnostic. C'est facturé 10 euros, mais c'est déduit de la prestation d'après. Et au moins, on a le temps d'en parler. Et donc ça, je l'ai fait venir. Bien sûr, mon expertise pour les cheveux bouclés. Toute la folie des colorations un peu rose, bleu, vert, violet. voilà, je l'ai ramené en France aussi. Enfin, en tout cas, à Laval, puisqu'en France, il y en avait déjà. Et puis, tout ce truc d'humain, ils jugent pas les gens là-bas. J'ai toujours dit à mes clientes, vous pouvez vous balader en costume carotte avec un string rose fluo. Ils vont adorer, ils vont être là en mode ouais, cool. Et puis ils passent leur chemin. Mmh. Et en France, il n'y a pas ça, quoi. Il y a encore beaucoup trop de jugements sur les autres. Et c'est ça que je ramène. Je ne juge pas, genre, qui vous êtes, il n'y a pas de jugement.
Justement, c'est très chouette aussi que tu parles de ton expertise des cheveux bouclés. On sait que les cheveux bouclés et crépus sont souvent quand même mal compris dans les salons classiques. Pourquoi, selon toi, justement, il y a encore cette lacune qui persiste dans les formations de coiffure, peut-être même. Peut-être que c'est moins. Vous êtes moins formé dessus.
C'est pas du tout dans le programme. D'accord. En fait, c'est ma meilleure copine depuis le collège et noire avec des cheveux crépus. Et quand je suis arrivée du coup en coiffure et que j'ai voulu la coiffer, on m'a dit « bah non, c'est pas dans le programme ». J'étais en mode « mais moi, je veux coiffer les cheveux de ma meilleure copine ». Enfin, c'est ma première modèle après ma mère et ma sœur, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout encore. Enfin, c'est même pas encore. C'est pas d'actualité tout court en France. Et que toutes les femmes coiffeuses, tous les hommes coiffeurs, tous les coiffeurs tout court, qui ont fini par être expérimentés là-dedans, ils ont dû faire une formation ailleurs. Et moi, du coup, ma formation était à Londres parce que sinon. Il n'y a rien en France qui nous l'apprend, quoi. Sauf oui. les Français qui commencent à en faire des formations.
Oui, puisque finalement, on voit souvent des salons spécialisés pour cheveux bouclés ou crépus, mais c'est comme si c'était à part. Ouais.
Entre guillemets, c'est un peu comme le même genre avec mon salon. On est obligé de le
spécifier.
Voilà, on est obligé de le dire parce que si vous allez dans un coiffeur lambda et que la personne vous dit être spécialiste cheveux bouclés, je ne serais pas très rassurée. J'ai déjà vu le cas et moi j'ai été cette coiffeuse pendant très longtemps vu que c'était pas spécifié sur les salons où j'étais, mais c'est risqué. Des fois les gens qui ont les cheveux bouclés, coupez-vous les cheveux tout seul, c'est plus rapide, hein, vous allez moins vous rater des fois.
Justement, quel mythe ou idée reçue sur les cheveux bouclés toi t'aimerais déconstruire, peut-être qu'est-ce que tu pourrais...
Je sais que beaucoup de coiffeurs pensent que ça prend énormément de temps. Pas forcément quand on s'y connaît et pas forcément selon la demande. Effectivement, faire un brushing red baguette sur une personne qui a des cheveux crépus, ça prend du temps, mais la tarification peut suivre et très souvent les personnes sont au courant du fait qu'elles prennent plus de temps parce que c'est plus épais, parce que c'est... Mais c'est ok. Enfin, moi, j'ai transformé mes prix par rapport à ça. C'est-à-dire que vu que j'ai l'exclusivité, mes prix sont un petit peu plus élevés pour les cheveux texturés, mais j'ai aussi mis le temps pour, en fait. C'est juste à vous de modifier vos tarifications et de faire des tarifs pour les cheveux texturés, mais c'est OK de prendre 20 minutes de plus pour une personne qui a des boucles à partir du moment où vous savez gérer ça, quoi. Enfin, je trouve ça dommage de s'en freiner juste parce que ça prend du temps, entre guillemets.
Ton salon a ouvert donc en janvier, donc il y a peu de temps. Quels sont les premiers retours que tu peux avoir, que ce soit de la clientèle ou même peut-être d'autres salons de coiffure?
Alors, des autres salons de coiffure, j'ai pas de retour. Je pense qu'on me fuit un peu. Parce qu'en plus, je sais pas si les gens ont remarqué, mais je suis collée à un salon de coiffure, littéralement, mon local. Et j'ai été la voir, ça avait l'air de bien se passer, mais j'ai pas plus de retours sur les coiffeurs de la rue ou sur les coiffeurs de la ville. En question du prix non genré, j'ai eu beaucoup d'interrogations. Des gens ne comprennent pas. Ils pensaient qu'il fallait être non genré pour venir dans mon salon. Non, vraiment non, pas du tout. On m'a demandé si c'était principalement pour les LGBTQIA+. Non plus. C'est effectivement, vous en faites partie, mais j'ai pas fait un salon que pour ça. Et
l'idée, c'est de sortir des cases, justement.
Oui, c'est ça. C'est vraiment juste... parce que pour le coup, le terme non-genré, c'est le terme quand on ne met pas de genre. C'est pas le terme...
Il n'y a pas de genre, c'est qu'on ne on met
ça,
pas de cases.
C'est ça. C'est vraiment... j'ai pas le choix de l'appeler comme ça. C'est comme ça que ça s'appelle. Et au niveau des cheveux texturés, j'ai un très, très bon retour. On vient limite... m'applaudir, on rentre dans mon salon, on fait enfin merci d'être là.
Il y a un soulagement, il y avait une attente. Ouais.
Je le sens vraiment parce que je sens que je vais vite avoir besoin d'employés parce que je vais fortement me retrouver à faire que ça bientôt. Et toutes les personnes pour les cheveux colorés, j'aurai plus de place pour eux. Donc, pour le coup, le retour des cheveux texturés est très positif. Le retour pour les prix non genrés, il est mitigé. J'ai des gens contents, des gens qui trouvent ça logique et des gens qui comprennent pas. Et au niveau des autres coiffeurs, n'ayez pas peur de moi, je fais pas la même chose que vous. Et ça va bien se passer, on peut tous vivre ensemble dans une même ville.
À quoi ressemble peut-être ton salon idéal dans 5 ans? Est-ce que tu as d'autres projets en tête pour continuer à faire évoluer ton approche?
J'ai énormément de projets. Je veux que dans 10 ans, vous entendiez parler que de moi. Donc s'il y a possibilité d'en devenir une chaîne, ce serait encore mieux. D'avoir des salons encore plus grands pour avoir plus d'employés, pour pouvoir apprendre mon savoir-faire à encore plus de personnes. Prendre des apprentis, bien sûr, etc. Et d'ailleurs, j'ai réfléchi à tout ça parce que j'ai pris des meubles faits sur mesure dans mon salon, au cas où, si je dois en faire un autre ailleurs et qu'il ait la même identité visuelle.
Super. Alors, on peut te retrouver, on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Ça permet de voir un petit peu ton travail, ton univers. Mais aussi, de toute façon, on peut aussi appeler ton salon directement pour prendre rendez-vous avec toi.
Plaisir.
Je te laisse donner les coordonnées si tu veux.
Alors, attendez, parce que je ne le connais pas par cœur.
Donc, je le disais, tu es donc situé à Laval, rue du Val de Mayenne. Donc, c'est la rue piétonne qui longe les quais, enfin, qui est parallèle au quai.
Sur les réseaux sociaux, je suis azoa.r.stylist. Et au niveau du numéro de téléphone, je vous donne ça tout de suite, c'est le 06 85 94 22 83. Et puis voilà, quoi. J'ai pas Facebook, désolé. Enfin, si, j'ai une page Facebook, mais c'est pas là où ça va être le plus actif.
Donc, on te retrouve principalement sur Instagram.
Ouais, sur Instagram.
Directement en salon pour venir te rencontrer, échanger, prendre rendez-vous.
Exactement.
Ou alors au numéro que tu viens de nous donner.
C'est ça. Et puis, il y a des petits liens sur Google ou Instagram où vous pouvez direct prendre rendez-vous si vous avez peur de m'appeler.
Merci en tout cas, Alexia, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir.
Merci beaucoup. C'était cool.
Et donc, on va continuer dans quelques instants avec ta revue de presse, Maxime. Mais avant ça, on va faire une pause musicale et alors j'avais envie d'écouter avec vous Eloa comme un animal.
Débute cette revue de presse du Haut-Anjou sur le thème de l'amour. Nous rencontrons Linsa et Chantal Lannet, fleuristes à Champigny. Ils se préparent activement pour la fête des amoureux. Elle explique que bien que la fête des mères soit l'événement la plus importante pour les fleuristes, la Saint-Valentin a un impact bien moindre. Selon elle, elle est souvent difficile de prévoir les préférences des clients, que ce soit des roses ou des compositions florales. Elle raconte également une anecdote surprenante, un homme qui achète deux bouquets de fleurs, l'un pour sa femme et l'autre pour l'envoyer à sa deuxième compagne. Deux femmes heureuses pour l'instant, mais ça risque de devenir plus compliqué pour l'avenir. Et on continue à Château-Gontier pour parler d'un objet volant identifié, le drone. Nous rencontrons Maxime et François, les fondateurs d'une entreprise spécialisée dans les drones. Ils se connaissent depuis l'âge de 10 ans et partagent une passion commune pour la technologie et l'aviation. Après des parcours différents, ils se retrouvent sur une formation de 3 semaines pour apprendre comment programmer des drones. Puis ils décident de lancer leur entreprise et se spécialisent dans les spectacles de drones. Ils ont commandé 1000 drones, une quantité inédite dans le Grand Ouest. Ils soulignent également l'aspect plus écologique et moins bruyant de leur spectacle par rapport aux feux d'artifice. En effet, un drone émet 70 décibels contre 120 pour un feu d'artifice. Actuellement, ils préparent leur premier spectacle que l'on pourra découvrir en mai 2025 à Vannes. Une étape clé pour convaincre leurs futurs clients. Pour clore cette revue de presse du Haut-Anjou, nous allons maintenant vous parler d'intelligence artificielle IA. L'IA a pour objectif de stimuler l'intelligence humaine et de poursuivre des tâches de manière autonome. Mais pourquoi suscite-t-elle tant de craintes? Bien que l'IA soit l'outil qui simplifie notre quotidien, elle comporte des risques. Elle peut par exemple être utilisée dans le cadre scolaire de manière contre-productive, entraîner des suppressions d'emplois, permettre des créations de fausses vidéos ou encore être exploitée par l'armée. Geoffrey Hinton, l'un des pères de l'IA, exprime ses inquiétudes et plaide pour une régulation afin de prévenir les dangers. L'avenir nous le dira. Rassurez-vous, pour l'instant, à l'antenne, nous restons bien humains. Enfin, tant que Margot continue à jouer la Molière à chaque introduction, on peut être sûr qu'on n'est pas des robots. C'est la fin de cette revue du Haut-Anjou. Pour l'auditeur qui voudrait plus d'informations, je vous rappelle quand même que votre hebdomadaire, le Haut-Anjou, est disponible en kiosque chaque vendredi, ainsi qu'en version numérique sur lehautanjou.fr.
L'agité du local sur l'autre radio. Chaque année, la semaine d'éducation contre les discriminations est un moment clé pour sensibiliser, débattre et agir en faveur d'une société plus inclusive. Le collectif Unissons nos différences se mobilise pour proposer un programme riche en rencontres, ateliers et événements engagés en Mayenne. Écoutez.
Alors Maryse Gaspard, directrice de la MAV, Association Mayennaise d'Action auprès des gens du voyage. Alors le collectif Unissons nos différences, c'est en fait un regroupement d'associations et l'idée est d'organiser les semaines d'éducation contre les discriminations. Et en fait, c'est Unissons nos différences parce qu'en fait, on vient tous avec nos différences. Donc que ce soit des publics que nous accompagnons, ils peuvent être migrants avec un handicap, homosexuels, la pauvreté et des étiquettes qui peuvent aujourd'hui faire qu'on soit discriminé. Donc en fait, l'idée, c'est de regrouper toutes ces différences et de favoriser le mieux vivre ensemble.
De différents temps sont organisés donc pour ces semaines d'éducation contre la discrimination. Sur le département, il y a principalement à Mayenne et à Laval. On peut parler notamment des expositions qui sont organisées.
Il y aura effectivement deux expositions. Donc la première sera installée au Centre social Les Possibles à Mayenne. C'est Femmes Libres. Séverine Mousseau, en fait, met en avant, par la création de tableaux, des femmes inspirantes. Et l'autre exposition vient un peu casser toutes les idées reçues sur la pauvreté. Et c'est ATD Carmonde qui installera cette exposition sur les stands de porteurs de parole que l'on organise sur les marchés de Mayenne le 15 mars et de Laval le 22 mars.
L'idée de ces stands porteurs de parole, c'est justement d'aller à la rencontre des gens et d'échanger avec eux. En quoi c'est important d'aller chercher des publics, justement, pas forcément encore convaincus?
Alors l'idée, c'est de pouvoir, en fait, peut-être permettre aux gens de s'arrêter entre leur achat de légumes et de viande pour pouvoir échanger sur des sujets qui nous concernent tous, le bien vivre ensemble et peut-être réfléchir sur comment chacun peut agir dans son quotidien et peut-être permettre de pouvoir lutter contre les discriminations à chacun à son niveau.
Il y a un temps fort qui est organisé donc à Mayenne le 25 mars.
Oui, alors c'est une conférence qui va être animée par Floréal Soto, qui en fait s'est spécialisée dans tout ce qui est les discriminations. Elle pourra en fait nous expliquer lors de cette journée ouverte à tous, professionnels, habitants, élus, voilà, à tout le monde. L'idée, c'est vraiment qu'elle puisse expliquer de manière concrète et simple comment les discriminations se mettent en route, parce qu'en fait, il y a toute une machination qui fait que les discriminations se mettre en route. Et c'est surtout l'occasion aussi, dans le cadre de petits ateliers, de pouvoir avoir des outils et pouvoir concrètement réfléchir et proposer des réponses à pouvoir lutter contre les discriminations. Et d'ailleurs, la conférence s'intitule « Renforcer son courage social ».
Donc il y a aussi sur plusieurs rendez-vous en mars des jeux de sensibilisation organisés à la Vigie Mémoriale à Mayenne.
Donc la Vigie proposera tous les mercredis du mois de mars des jeux de sensibilisation à la tolérance et contre les discriminations. Donc soit ils sont ouverts dès 10 ans ou dès 15 ans pour l'atelier du 26 mars avec l'atelier Plus Jamais Ça qui aborde les drames historiques résultant de discrimination. Donc c'est ouvert à tous, c'est gratuit, il suffit d'appeler pour s'inscrire.
Et donc, il y a trois autres rendez-vous encore qui nous sont donnés à Mayenne.
Oui, Christian Poincheval, en fait, proposera une œuvre collaborative. Donc, en fait, l'idée, c'est que l'œuvre sera une œuvre géante. Une structure en ferraille sera installée sur l'espace public de Mayenne, sur trois espaces publics différents, le samedi 15 mars, le matin sur le marché, le mercredi 19 mars de 14h à 16h et le samedi 22 mars de 10h à 12h. L'idée est que chacun puisse, à partir de tissus récoltés, créer une œuvre de tissage et donc de métissage. L'idée est de faire ensemble et de parler aussi de soi, d'où on vient, qui on est, et de faire connaissance avec l'autre avec qui on fabrique cette œuvre collaborative.
Des ciné-débats sont également prévus.
Louis Onillon, le programmateur du cinéma L'Avant-Scène à Laval. Et le 29 mars à 14h aura lieu la projection du film Green Book sur les routes du Sud dans le cadre des SECD. C'est une projection suivie d'un débat. C'est un road movie en fait sur la relation entre un chauffeur blanc américain et et du coup il conduit un pianiste noir reconnu, et on suit leur relation dans les années 60 aux États-Unis. Donc c'est un film très beau avec plein d'espoir et voilà, moi je vous invite à aller le voir parce que c'était vraiment un des coups de cœur à sa sortie en 2019.
Didier Baudet, je suis président de la MAV. Alors le ciné-débat qui aura lieu au Vox le 27 mars à 20h s'appelle Nelly et Nadine. En quelques mots, c'est une personne qui fait des recherches sur sa grand-mère qui a donc vécu dans les camps. Et en fait, elle s'aperçoit que sa grand-mère a vécu une histoire d'amour avec une autre femme, elle également résistante. Donc c'est une histoire très très poignante et une histoire vraie.
Qu'est-ce que vous constatez de l'évolution des discriminations ? Est-ce qu'il y a une réelle évolution positive ou est-ce que finalement il y a toujours un travail à faire aujourd'hui ?
Alors pour moi, il y a toujours un travail à faire aujourd'hui. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a des paroles totalement décomplexées aujourd'hui. D'ailleurs, un peu à cause des réseaux sociaux, puisque c'est en boucle. Et que les choses n'ont pas forcément augmenté, mais on en parle beaucoup plus et dans les deux sens. Donc ça peut être dans un sens complètement négatif. On voit des jeunes qui, des jeunes et des moins jeunes, hein, qui de par les réseaux sociaux, de par ce qu'on leur inculque, vont tout de suite se mettre dans des positions discriminatoires. Mais heureusement, il y a des collectifs comme le nôtre, UND, et on n'est pas les seuls en France, où c'est un combat au quotidien pour lutter contre les discriminations. Et même si c'est une politique de petits pas, il ne faut jamais renoncer.
Ces différents temps permettent aussi aux gens de se réunir justement pour apprendre à dialoguer. C'est un peu le mot-clé justement de ce temps fort qui a lieu lors de ces semaines, notamment la conférence donc avec Floréal. L'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour communiquer les uns avec les autres. Vous avez dit tout à l'heure, je trouvais ça intéressant, il ne faut pas se battre avec ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, il faut discuter.
Tout à fait. Je pense que la discussion, l'échange, ce sont les deux points forts qui permettent de lutter contre les discriminations. On peut ne pas être d'accord, mais il faut toujours faire face à l'ennemi, si j'ose dire, pour avoir des arguments contraires. Alors que la violence est pire, ça ne sert à rien, on l'a bien vu au travers de nos histoires.
Vous écoutez l'AJT du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Alors dans quelques instants, on retrouve le journal des sports avec toi Mathieu, mais avant, tu nous proposes un titre Maxime.
Et oui, on va écouter Jane Birkin de Mika.
Je suis parfois beaucoup trop grand, parfois beaucoup trop petit. Je vis
m'effaçant, peu importe où je suis. Libre, libre, libre comme l'air. Vivre, vivre à ma manière. Libre, libre, je sais pas faire. Moi, je suis pas à l'aise dans mes blues.
Et on termine l'agité du local du jour par un tour complet de l'actualité sportive en Mayenne avec Mathieu pour son traditionnel journal des sports.
Bonjour Margot, bonjour à tous.
On commence par la mauvaise nouvelle avec la fin de la série d'invincibilité du stade Lavallois.
Après 10 matchs sans défaite, les Tangos sont tombés en Ligue 2, une première depuis le 29 octobre dernier. Depuis, Laval enchaînait les excellents résultats au point de se demander en championnat, au point de se demander même si le stade Lavallois pouvait croire à une improbable montée en Ligue 1. Sauf que la réalité est revenue au galop, battu à Annecy 1-0 à domicile il y a deux semaines sur une pelouse impraticable d'ailleurs. Laval s'est de nouveau incliné ce vendredi. En déplacement en Corse pour affronter Ajaccio, Laval a subi une lourde défaite 3-0, la deuxième consécutive. A noter que pour ce match, Malik Tchokounte était absent, lui qui compte d'ailleurs 7 buts en Ligue 2 cette saison. Avec ces deux défaites, Laval s'éloigne des places pour les play-offs d'accession. L'équipe est actuellement 7e. Pour ce qui arrive, Laval aura des échéances importantes à gérer. La première aura lieu samedi prochain à 14h, avec un déplacement en Bretagne pour défier le leader de la Ligue 2, qui est Lorient. Une équipe que Laval avait battue 2-0 à domicile lors du match aller.
Du football encore, cette fois en amateur au niveau régional avec les clubs mayennais.
Le 8 et 9 février dernier ont lieu les 8e de finale de la Coupe des Pays de la Loire, avec plusieurs clubs mayennais encore en lice. Parmi eux, il s'agit notamment de l'US Changer, éliminé et battu 3-0 par Saint-Julien Divat. D'ailleurs, pour info, le premier week-end de mars, les deux équipes se retrouveront en championnat. Élimination aussi pour l'Herniette au tir au but face au voisin, le FC Château-Gontier. Ce dernier d'ailleurs défiera la réserve du Mans en quart de finale de la compétition. Après cette parenthèse de coupe, retour au quotidien au championnat pour l'ensemble des clubs mayennais qui évoluent soit en R1, R2 ou en R3. Parmi eux, l'US Changer vit une saison très compliquée avec une 9e place en R1. Et ce, malgré l'arrivée des joueurs expérimentés comme Kirivin Perreault ou Cyril Huissier. Plus bas, cette fois en R2, l'Ernet vit une période difficile aussi. Avant leur match de coupe, les Erniens restaient sur un lourd revers 7-0 face à Saint-Pierre-Montrevaux.
Futsal maintenant avec l'étoile lavalloise qui perd à Paris à l'issue d'un choc au sommet.
Samedi, Laval était à Paris dans le 12e arrondissement pour défier le Sporting. Le Sporting d'ailleurs leader de D1. Un choc comptant pour la 13e journée de championnat. Pourtant, ce choc intense s'est débloqué en seconde période. Une seconde période réussie pour les Lavallois avec l'ouverture du score de Bilal Bakali. Un avantage de courte durée car Laval se fait rattraper et perd le fil de la rencontre. Et ce, malgré la réduction du score de Wesny Guirillo. En fin de partie, Laval sauve heureusement le honneur grâce à Abdessamane Mohamed. À l'issue de cette défaite 5-3, le constat est clair. L'étoile lavalloise perd son siège de leader et compte aussi 4 points de retard. Cette contre-performance pourrait aussi avoir de lourdes conséquences à l'issue de la saison. Un peu de positivité maintenant, cette fois en coupe. Double tenant du titre, l'étoile lavalloise sera au rendez-vous des 8e de finale et affrontera le Sporting de Jasse. Après sa victoire 4-0 face à Aviron lors des 16e de finale.
Désormais, place à l'athlétisme et pour ça, faisons un petit point sur les championnats interrégionaux.
Margot, plus précisément de cross et de lancer long. Pour le premier, ils se sont déroulés le 9 février dernier à Romorantin en Loire-et-Cher, avec, dites-vous bien, 163 Mayennais présents. En plus du parcours gadoueux, les conditions météorologiques sont également à souligner. Parmi les vainqueurs, on en retiendra deux. Le premier se renomme Adrien Lorichum, deuxième du cross U23 masculin. Un autre Mayennais s'est illustré durant ce cross. Il s'agit de Noé Rutio. Il termine sur le podium du cross court masculin. Durant le week-end, d'autres épreuves ont également eu lieu. Avec les championnats interrégionaux de lancer long organisés le 8 février à Saint-Nazaire. Là-bas, 12 athlètes mayennais étaient présents. Parmi les vainqueurs, comment ne pas parler de Clément Taffin ? Ce dernier est le seul mayennais titré, particulièrement dans le lancer du marteau. Il a réalisé une performance exceptionnelle avec un lancer de 38,67 m.
Désormais, on passe au volet avec l'ASPTT, facile vainqueur de Plaisir Villepreux, dimanche dernier.
Si la saison de l'ASPTT pouvait se résumer à une image, ce serait le jeu du chat et de la souris. Et ce jeu continuera tant que Laval gagnera. Mais malheureusement, devant, il y a Boulogne, leader du championnat et surtout invaincu. Pour continuer de croire au titre, Laval n'a d'autre choix que de s'imposer. C'est chose faite pour Laval qui était en déplacement dimanche dans les Yvelines pour défier Plaisir Villepreux. Là-bas, les Pégas se sont nettement imposés 3-7-0. À l'extérieur, ils ont aussi fait valoir leur statut de deuxième en s'imposant avec la manière.
Après l'effort, place au réconfort pour Laval en basket.
Un repos mérité après un succès attendu. C'était face à Touraine à domicile avec une victoire 93-62. Un match comptant pour la 15e journée de National 2. Dans cette rencontre, comment ne pas parler d'Antoine Belkessa ? L'arrière a réalisé un match exceptionnel avec 29 points marqués. Au-delà de la victoire, l'équipe était surtout attendue dans la réaction. Et cette réaction a eu lieu, d'autant plus qu'elle était impérative pour l'US Laval après deux revers frustrants. Le premier face à Toulouse 87-85 en Coupe de France. Et surtout après son revers face à Val-de-Seine en N3, samedi 1er février. Val-de-Seine, pour rappel, leader de N2.
On termine ce journal par l'agenda avec les prochains rendez-vous sportifs à suivre en Mayenne.
Pour ça, sortez vos agendas. Samedi prochain, l'US Saint-Gilles défiera à domicile Le Mans-Villaret. En rugby, le RC Lavallois ira à Ancenis le 23 février pour une nouvelle rencontre de Régional 2. Son voisin, lui, le RC Olympique Mayennais affrontera le Patriote Bonnetable le 2 mars. En volet maintenant, le 22 février, la SPTT affrontera Saint-Renan à domicile. Le 28 février maintenant, le Stade Lavallois recevra la Lanterne Rouge du championnat de Ligue 2, à savoir Martigues. Et enfin, le 22 février, l'Étoile Lavalloise recevra l'Espace Mayenne Toulouse avec l'envie de retrouver le chemin de la victoire. Sur ces informations et cet agenda chargé, je vous dis à très bientôt, chers auditeurs, chères auditrices.
À très bientôt, Mathieu. Merci beaucoup. La JT du local, eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Alexia d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Mathieu, encore une fois, et merci à toi, Maxime. Alors, qu'est-ce qu'on écoute ensuite ce lundi ?
La soirée commence avec Selenoïde à 19h. L'émission nous propose chaque semaine un voyage sonore à base de musique planante, cinématographique et ethnique.
Et la soirée ne s'arrête pas là.
Et oui, la soirée continue à 20h avec la discothèque faite par Morgane.
Alors moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local, pour une émission un peu spéciale consacrée en tout cas au temps fort autour de la Journée internationale des droits des femmes au Théâtre des Trois Chênes à Loiron-Ruillé. Et nos invités seront Sandrine et Virginie du Théâtre d'Air à Laval. D'ici là, laissez ce lundi se passer à son rythme, sans chercher à tout précipiter. Après tout, chaque début de semaine a son propre tempo, vous le méritez. Et surtout, s'il vous plaît, n'oubliez pas de faire le bien.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini. Oh ben, c'était bien, hein.